Je suis Adrien Garcia, entrepreneur, designer et cofondateur de la marque de vêtements Réunis. Et vous écoutez The Bold Way. L'avenir appartient à ceux qui remettent en cause l'ordre établi. Mais comment réinventer les règles, créer des projets iconiques et des œuvres qui marqueront l'histoire? The Bold Way est le podcast qui rentre dans la tête de ceux qui excellent dans leur domaine. Mode, divertissement, food, design, art ou business. Leur point commun? Le travail, l'audace, l'innovation et une attention toute particulière à la créativité et à l'esthétique. Ma mission est de décortiquer leurs méthodes et leur état d'esprit à travers des interviews longues et sans filtre, pour vous donner les clés de leur succès et vous inspirer à créer votre propre chemin. The Bold Way est plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement qui encourage chacun à trouver sa propre voie, à tracer son propre chemin et à innover dans son domaine. The Bold Way est là où la créativité et l'innovation rencontrent le business. Bonne écoute.
Avant de commencer l'épisode, je voulais vous dire un truc de ouf. 75% d'entre vous ne sont pas encore abonnés au podcast sur les plateformes d'écoute telles que Apple Podcast ou Spotify. Si vous appréciez ce podcast, je vous serai extrêmement reconnaissant de vous abonner via votre application d'écoute favorite. Votre abonnement aide véritablement le podcast à se développer. Et plus vous êtes nombreux, meilleurs seront les invités. Un grand merci d'avance. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans The Bold Way. Je suis aujourd'hui avec Léo Walk. J'écorche pas ton nom.
Non, c'était parfait.
Non, mais t'as un vrai nom, ça c'est ton blaze, Léo Walk, mais...
Vas-y, ton vrai nom, le Léon Schwerker, là.
Non, je préfère pas. Franchement, ça va, je vais l'éclater. On le disait en off, t'as à peine 30 ans et t'as déjà fait 1000 projets. C'est hyper impressionnant. Moi, ce que je veux comprendre aujourd'hui, c'est comment on devient Léo Walk. D'où te vient cette fureur de vivre et cette fureur de danser? Comprendre aussi le monde de la danse et ses différents courants, acteurs, fonctionnements, parce que je pense que c'est un monde qu'on connaît assez peu quand on n'est pas un insider. Ton processus créatif, bien sûr, pour tes spectacles. Comment on gère l'ego et les égos, comment on reste au top du game aussi, comment on se renouvelle, comment on reste relevant dans la mode. C'est un mot qui revient souvent dans les gens que j'interview, c'est comment on reste dans le coup, dans l'air du temps, etc. Comment on évite de devenir has-been, comment on gère autant de projets de front, et puis ta vision aussi sur Walk in Paris. Tu l'as compris, j'ai envie d'aborder énormément de sujets. On a assez peu de temps, une petite heure. Pour commencer et pour un peu set the scene, comme je dis en anglais ou en américain, c'est où est-ce qu'on est, Léo, là, maintenant?
Là, tout de suite, on est dans ma petite cabane perchée au 8e étage vers le Père Lachaise.
Ouais.
Et c'est mon petit coin de repos, c'est mon appart et c'est aussi un peu mon studio de danse en continu.
Très bien. Et on a une vue imprenable sur le cimetière du Père Lachaise et sur Paris surtout. Ouais. Alors aujourd'hui c'est tout gris, mais...
Ouais, c'est cool. Bah là là il y a beaucoup de brume, mais en vrai on voit la Tour Eiffel, Montmartre, on voit un peu tout.
Ouais.
C'est hyper agréable en vrai.
Très bien. Ouais. Comment tu te présentes au monde, toi, quand on te demande de te présenter à des gens qui te connaissent pas
encore ? Je l'ai fait hier à un dîner quartier et j'étais en bug. Enfin, tu vois, on était un peu la pression, on était 30 à table et tout le monde, voilà, moi je suis designer, moi j'ai ce magazine, machin. Puis moi, je l'ai fait simple, quoi. Je dis que je m'appelle Léo, je suis chorégraphe, j'ai 29 ans, que je danse et je leur ai dit que j'avais le BAFA aussi, que ça pouvait servir si on voulait se faire un... Tout genre d'activités extrascolaires, si on se faisait chier.
Trop bien, cool. Ils l'ont bien pris ? Ils ont rigolé ?
Ils ont super bien pris, ils se sont intéressés un peu au loup-garou. Je leur ai expliqué un peu qu'est-ce que le jeu du loup-garou.
Ok.
Des gens de la mode, c'était assez drôle de leur expliquer ça.
Très bien. T'es né où ? T'as grandi où ? Et qu'est-ce qui t'a amené à la danse, Léo ?
Alors moi, j'ai grandi à Champigny-sur-Marne. J'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça, à travers des vidéos d'archives de VHS, que je peux plus dire que je me suis intéressé à la danse, parce qu'au final j'ai toujours dansé. J'ai vraiment des cassettes où j'ai 1 an, 2 ans et je danse, mais dans ma famille ils avaient capté que j'étais danseur, parce que je dansais pas comme les autres enfants où juste je bougeais. J'avais déjà un peu un espèce de truc deep où j'avais les yeux fermés et je ressentais les mouvements, je faisais beaucoup de choses avec les mains. Et du coup, je pense qu'il y avait toujours cette connexion avec la danse. Mmh. Et après, c'était juste comment trouver quelle porte ouvrir pour répondre à l'énergie que j'avais à l'époque. Donc, j'ai fait de la capoeira, mais ça se passait mal. J'ai fait du classique, ça s'est mal passé. enfin, on peut pas dire que j'ai fait du classique, du coup, ça s'est carrément pas passé.
Okay.
Mais j'ai rencontré Didier, j'avais 7-8 ans, 8 ans exactement.
Ah oui, c'est si tôt que tu rencontres ouais, Didier, un de tes mentors.
Mon mentor, qui est, ouais, qui est encore le gars que je vois pour revenir les pieds sur terre, et juste parce qu'on s'aime et que c'est mon gars, quoi.
C'est qui? C'est Didier Bocco, c'est ça?
Didier, hein, Bocco, ouais.
Ouais, il a l'air très important dans le monde de... Enfin, en tout cas, toi, quand tu t'écoutes sur d'autres podcasts, ouais, t'en parles régulièrement. C'est vraiment ton mentor et le gars qui est là en permanence. Mais il vient d'où et comment ça se fait qu'il est aussi peu connu du grand public alors qu'il a une grande importance
parce
dans le monde de la danse?
Il veut pas. Il a eu une grosse importance dans le milieu de la danse. Il y a même les plus gros danseurs qu'on voit aujourd'hui qui sont sponsors Red Bull, machin et tout. C'était des mecs où c'était le premier à les ramener, à les défrayer pour qu'ils viennent dormir chez ma mère, chez tout le monde. Et en fait, ils venaient faire des battles à Champigny. Et il a eu une grosse importance, on va dire, dans la culture underground. Et il est très engagé dans des associations. C'est quelqu'un, enfin, humainement, c'est un peu mon mentor. À la fois, je suis incapable d'être ce qu'il est parce que moi, j'ai trop d'ego. Mais c'est quelqu'un où quand je le regarde, ça me fait du bien. Ça me fait du bien, ça me recentre et ça me donne beaucoup, beaucoup de force.
Mm-hmm. C'est un mec qui a donné sa vie, en fait, à ce monde-là et aux gens, en fait, finalement.
C'est quelqu'un qui donne aux gens, je pense, au-delà de la danse.
Point.
Même
ouais,
si lui, c'est la danse son truc, mais humainement, il est là pour tout le monde, quoi.
Trop bien. Ce monde de la danse, tu as commencé à en parler un petit peu. Tu parles de battle, de hip-hop, de breakdance, d'underground. C'est comment, ouais, tout ça est organisé, en fait? Comment on rentre dans ce milieu-là? Toi, t'es tombé un peu par hasard.
Je suis tombé complètement par hasard.
Ouais.
J'ai eu trop de chance. Ça fait des années qu'on me dit mon fils, il veut faire du hip-hop. Comment il fait? Bah non, en fait, c'est... faut venir d'un endroit en banlieue et connecter avec les bonnes personnes à la salle de la MJC de ton quartier, et avec un peu de chance, tu vas tomber sur le bon ancien qui va te transmettre les bonnes infos. Et après, aujourd'hui, tu as toutes les armes pour travailler seul. Moi, à l'époque, Didier, c'était la naissance des cassettes, donc il me ramenait des cassettes, un peu regarder des cassettes des Quinries et tout, tu vois.
Des Quinries?
Des Américains.
D'accord. Ouais, il faut qu'on utilise des mots. Attends, parfois je t'arrêterai sur certains termes pour que
pas
tout le monde comprenne.
Carrie américain.
Carrie américain.
Ouais.
Tu parles de Red Bull aussi. Red Bull a qu'est-ce qu'ils font, en fait, dans cette affaire?
J'ai l'impression que Red Bull aujourd'hui, c'est eux un peu qui ont la main mise un peu sur
ce
break.
Ouais, sur le break. Ouais. Ok. Parce que explique-moi le monde du break, ça consiste en quoi? Comment ça fonctionne?
Bah nous à l'époque,
moi je connais pas du tout le break et ce monde-là.
Alors si tu veux, c'était un peu magique. L'époque que j'ai connue, parce que déjà les DJ étaient incroyables, ça mixait que sur vinyle. Et c'était de la soul, c'était du bon rap américain, hein. C'était vraiment des musiques qui groovaient, quoi, à fond, qui avaient de la soul, qui avaient de l'émotion. Et en fait, il y avait tous les week-ends des battles. Et en gros, tu gagnais rien, quoi. À l'époque, on allait prendre le train pour essayer de gagner un battle où fallait battre 16 personnes pour gagner un bonnet tribal, tu vois.
D'accord. Et donc, en fait, on faisait du break comme on faisait du foot.
Bah, un peu.
Ouais.
C'est ça. C'est qu'on avait les entraînements, il y avait beaucoup de pression, c'était très, très dur.
D'accord.
Psychologiquement, il y en a beaucoup qui ont arrêté, qui n'ont pas tenu parce que c'était un peu hard psychologiquement, fallait tenir le truc.
D'accord. Et c'est un monde qui est organisé avec une fédération ou c'est un truc complètement underground?
Il y a les deux. J'ai l'impression que là, depuis qu'il y a les JO, parce que quand même le break va être aux JO cette année.
Trop bien.
J'ai l'impression qu'il y a il y a une fédération, ouais, du hip-hop, machin. Moi, j'avoue que pour moi, ça restera une culture underground.
D'accord.
C'est une culture libre pour moi, le hip-hop.
Ton enfance, ça ressemble à quoi? Donc, je comprends qu'il y a beaucoup la danse. T'es quelqu'un qui TDAH. C'est quoi ça, TDAH?
Écoute, c'est trouble difficile de l'attention hyperactivité. Si tu veux, j'ai le cerveau qui est tout le temps en action, tout le temps. En fait,
tu te reposes jamais.
Non.
Et donc ça, on le repère rapidement chez toi quand t'es enfant. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Il y a pas grand-chose à part.
Si tu prends la Ritaline, donc c'est un médicament qui fait que tout d'un coup t'es hyper focus.
Okay.
Adolescent, on va dire que je fumais des joints pour me canaliser.
Ouais.
Mais la Ritaline fait un peu le même effet, c'est que tout d'un coup, ça nous calme, on arrive à se focus sur une chose, là où moi, je n'arrive pas à faire ça. J'ai le cerveau qui est tout le temps sur 37 trucs en même temps.
D'accord.
Donc c'est hyper fatigant aussi.
Et tu en prends encore aujourd'hui ?
Non. Non, j'ai arrêté, j'ai décidé d'accepter ma nature, et je pense que c'est ce qui fait que j'ai fait tout ce que j'ai fait en si peu de temps, c'est parce que je ne me rendais pas compte, mais mon cerveau était hyper... productif.
Mais c'est-à-dire que tu dors moins ou pas forcément ?
Je dors pas beaucoup, ouais.
Tu dors pas beaucoup ?
Ouais, carrément insomniaque même.
Hyperactif.
Ouais.
Ça ressemble à quoi alors ton enfance ? Raconte-moi concrètement comment tu t'es construit.
Bah, je me suis construit dans deux mondes très parallèles en fait. Et je pense que je comprends aujourd'hui que... c'est vrai que j'arrivais pas à mettre un mot et à vraiment comprendre pourquoi je me différenciais des autres. Déjà dans la danse, tu vois, il y a beaucoup de gens forts, il y a beaucoup de gens beaux. J'arrivais pas à comprendre. Je pense que je suis passé par comprendre mon enfance et j'ai compris qu'il y avait un truc qui était assez particulier. C'est que déjà, j'ai grandi dans une banlieue où voilà, on écoutait du gros rap, je faisais des battles et voilà, j'avais une culture très street. Donc, je faisais du graff, on écoutait Rof, Cynic, Mafia Quinfree, tout ça. Et mon père était un puriste de la musique française. Donc, mon père, c'est quelqu'un qui m'a toujours dit, voilà, moi, des fois, je sens que j'ai 70% de féminité. Donc, un espèce de contraste où avec un monde rempli de testostérone, tu vois, que des mecs en survêt de TN, et mon père qui écoute Alain Bachung et Léo Ferré... et qui joue du piano tous les soirs en faisant des mélodies un peu mélancoliques, tu vois, et toutes douces. Et du coup, en fait, c'est un peu ce contraste-là, je crois, qui a fait ma danse. Parce que instinctivement, je me suis nourri de ces deux énergies-là qui ont fait partie de ma vie. J'ai fait partie de ces tourments, donc j'ai grandi avec des gens voilà, qui étaient dans des situations pas faciles. Mmh. En vrai, tous mes meilleurs potes, c'était des situations un peu compliquées. Voilà, obligé de vendre des choses pour s'en sortir, machin. Et à côté de ça, j'avais mon père qui, voilà, écoutait les Beatles, qui était méga...
C'était une banlieue dure, ce coin-là, de Paris, à l'époque ?
Ouais, en vrai, quand même. J'ai vécu des trucs un peu hardos... Mais ouais, c'était le 9-4, quoi. Enfin, c'était... En vrai, j'ai pas grandi à Saint-Maur-des-Fossés ou à Nogent, quoi. Mm. C'était un peu plus compliqué. Mais d'accord. C'est plutôt mon entourage, en fait. Naturellement, voilà, moi, les gens avec qui j'ai grandi, c'était des situations pas faciles, quoi.
Trop bien. Enfin, trop bien. Non, c'est pas trop bien du tout.
Non, c'était pas trop bien.
C'est pas trop bien du tout.
C'est ce contraste-là qui fait que j'ai commencé... en fait, à danser. Donc, tu vois, de m'entraîner sur du rap et de rentrer chez moi. Mmh. Et du coup, de danser sur Alain Bachung, par exemple, ça fait que naturellement, mes glissades et mon break, ils prenaient une autre direction.
Ok.
Alors, en fait, c'est ça. C'est ce process-là et je le comprends aujourd'hui.
Trop bien. Et donc, ouais. Donc, c'est-à-dire, à l'extérieur, t'es en mode vénère. Parce que le break, c'est une danse qui est dans la confrontation, dans le combat, quand même. Quand tu dis, quand on fait une battle, c'est que,
ouais.
Grosso modo, tu te bats contre quelqu'un et tu l'éclates au lieu de le taper. C'est un peu ça, la culture hein, du breakdance. C'est au lieu de se taper, on danse.
Ouais,
et
c'est ça.
Je te défie.
Mais c'est quand même violent. À l'époque, il y avait des bagarres. Il y avait
ok,
des...
ça peut finir en baston, etc. Parce qu'il y a trop de testostérone.
Ouais, à cette époque-là, c'était quelque chose. Aujourd'hui, ça s'est calmé.
D'accord, donc tu rentres chez toi, t'as cette douceur. Et qu'est-ce qui fait que tu décides d'en faire ton métier, en fait ?
J'ai pas vraiment décidé d'en faire mon métier.
Ok.
Moi, à la base, j'avais mon BAFA, j'étais en banlieue, je m'occupais des mômes. Je pensais pas que j'allais...
Mais t'aspirais à quoi quand t'étais gamin, comme ça ?
Bah, j'aspirais à pas grand-chose, hein. J'aspirais à rien.
Ah ouais ?
Bah ouais, j'ai été déscolarisé à 14 ans... mais il n'y a aucune école qui m'acceptait, mes parents étaient séparés, j'étais livré à moi-même.
Okay.
J'avais ouais, 15 ans, 16 ans, je vivais à l'hôtel avec ma mère et mon frère et j'aspirais à rien. Franchement, à cette époque-là, je vivais dans une petite misère qui fait que j'avais pas d'objectif en fait.
D'accord. Ouais.
À part juste comment faire des courses aujourd'hui, quoi. Comment bien manger, comment voilà.
Ok. Ouais. Donc c'est vraiment, t'es passé dans un moment extrêmement dark, difficile, où t'étais même pas dans un autre appartement, t'étais à l'hôtel. Donc c'était ouais. Assistante sociale et compagnie. C'était passé dans un moment extrêmement dark, difficile, douloureux. T'étais dans le dur, quoi.
Ouais. Dans le dur, manque d'intimité parce que. Ouais. Dans la même chambre avec son petit frère et sa mère, donc on n'avait pas d'intimité.
Ouais, 14-15 ans, c'est un peu dur. Voilà. Donc là, toi, ton futur est bouché, tu sais pas quoi faire. Et
je reviens back to basics. En fait, je rencontre les gars d'un autre crew qui s'appelle Youdat,
ouais,
qui me recrute, avec qui on commence à faire des scènes, à faire des spectacles, à faire des battles.
Et tu t'accroches à ça, toi ?
Et je m'accroche à ça.
À fond la caisse ?
Bah, en fait, on se voit tous les week-ends, on part faire des battles, on s'entraîne.
Ok.
On refait le monde.
Et t'es repéré ? C'est à ce moment-là que t'es repéré ?
C'est un tout petit peu après. C'est ouais. Un tout petit peu après que j'ai été repéré, mais c'est dans la foulée. C'est un peu à cette période-là, ouais.
D'accord. Donc là, t'es en mode, j'ai aucune visibilité sur le futur. Je m'accroche à ce truc-là parce que c'est le seul truc que j'ai dans ma vie, en fait. Et j'ai pas fait d'études et j'aspire pas à faire un autre métier que ça. Donc à la rigueur, je serais un peu comme
mais
comme
je me
Didier,
nourrissais,
non ?
Je crois que je me nourrissais beaucoup, en fait. Mine de rien, quand je repense à cette époque-là, j'étais tout le temps dehors et je voyais beaucoup de gens, beaucoup d'artistes de plein de milieux différents. Et à travers le voyage, à travers la danse, en fait, ce qui est cool avec la danse, c'est que t'es connecté avec tellement d'humains différents et de classes sociales différentes.
C'est un milieu mélangé ?
C'est un milieu où, si tu veux, en fait, il y a tout. Et contrairement à, je vois les milieux dans lesquels je suis des fois aujourd'hui, le hip-hop, t'as tout. Mais c'est hallucinant, t'as vraiment ouais, tout mélangé, quoi. Quand tu grandis en fait avec toutes les cultures en même temps, je trouve que c'est enrichissant.
Carrément. Raconte-moi cette première rencontre qui va tout changer, en fait.
Alors, en fait, je devais faire une émission sur TF1 qui s'appelait The Dancers, autour de la danse, qui n'est pas sortie.
Tu sais pourquoi ?
Ils avaient mal monté ça. Ils voulaient la jouer en mode vraiment émission de danse qu'ils nous avaient vendu sur le papier. Et ça s'est transformé, si tu veux, en vraiment... ils voulaient faire une télé-réalité, quoi.
D'accord. C'était un peu la Starac version danse ?
Ouais, exactement.
Okay.
Mais sauf que le truc a trop mal été monté, ils ont enlevé le truc direct.
Ça a pas pris.
Ouais, ça a pas pris. Et du coup, c'est là que j'ai rencontré... c'est Thierry Mugler qui m'avait donné mon premier job. Donc je faisais un solo dans son spectacle.
Okay.
C'était 3 fois par semaine.
Génial.
Comme ça.
Il t'avait repéré comment, lui ?
Il m'avait repéré parce que j'avais fait une audition, en fait. J'avais fait l'audition, voilà, et après...
Ouais, donc t'étais quand même dans un focus ou en mode, c'est quand même... Enfin, potentiellement, ça peut devenir mon métier et je vais en faire mon activité.
À ce moment-là, en fait, tu t'y penses pas, quoi. Tu sais, quand t'es livré à toi-même, en fait, tu prends ce qu'il y a sur ton chemin, tu vois. Tu peux pas conscientiser ça.
Okay.
T'es pas en mode, faut que j'en fasse mon métier, quoi.
Ce qui est quand même intéressant, c'est que t'as l'air d'être un garçon très structuré, mine de rien, pour monter un spectacle, avoir la marche bleue, une crew, etc. C'est qu'à un moment donné, il faut avoir la tête sur les épaules et être très structuré. Et donc, quand tu me dis, j'ai du mal à te croire, en fait, quand tu me dis, j'avais pas de vision, j'avais pas ça s'est fait naturellement sans y penser.
Non, mais j'avais ce que j'étais. Tu sais, je pense que j'étais vraiment déjà un lézard dans sa bulle, tu vois. J'avais déjà ce mélange d'inspi, c'est-à-dire que moi, à 16-17 ans, ça paraît super cliché de dire ça, mais à l'époque, j'étais le seul b-boy qui mettait genre des Doc Martens, tu vois. Genre j'étais en chaussures et c'était il y a 15-20 ans en banlieue, tu vois. Genre, je peux t'assurer que quand je prenais le RER E avec mes Doc, on me regardait chelou, tu vois.
Ah ouais?
Et
quand tu dis b-boy, c'est quoi?
B-boy, c'est un b-boy, c'est un danseur, c'est un breaker.
Ok.
Ça veut dire breaker boy. Donc okay. C'est une big girl, un b-boy. Voilà.
Très bien. Je pars de loin, hein, tu vois.
Ouais, mais t'inquiète, on est là pour parler de ça aussi.
Ok. Et donc tu rentres dans le spectacle de Mugler. Ça dure combien de temps ça?
Ça dure en fait 1 mois, 2 mois, je crois, parce qu'en fait à côté de ça, il y a Christine qui m'a fait faire une audition et je suis pris sur le truc de Christine.
Là, pareil, ça tombe sur un coin du nez par hasard.
Ouais, j'allais même ne pas le faire parce que dans l'émission, ils voulaient pas que j'aille le faire, tu vois.
Okay.
Et en fait, vu que l'émission s'arrêtait, j'ai appelé, j'ai dit, en fait, je suis chaud de le faire et tout. Je savais même pas ce que c'était, tu vois.
Et puis, c'était personne à l'époque, surtout.
Ah oui, mais c'est-à-dire que je savais pas du tout ce que j'allais faire, quoi.
Enfin, okay.
Ça aurait pu être n'importe qui, tu vois.
Ok. Et donc, tu rentres, tu fais cette audition. Ça marche comment, d'ailleurs, une audition
Franchement, on était beaucoup. J'ai pas envie de faire le Marseillais, mais je vais quand même dire qu'on était un bon 150.
Ok.
Et en fait, on passe un par un, et après, on doit faire des chorés.
Ok.
Et un freestyle.
Une choré, donc, c'est-à-dire qu'on t'apprend des mouvements.
On t'apprend une choré,
ouais. Voilà, et tu dois la faire, et ensuite freestyle.
Exactement.
Et t'es choisi parmi quatre autres garçons, non? Il y avait quatre places, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Ils ont pris Diablo, grand danseur hip-hop, Nicolas Huchard, là, qui est avec Madonna, et Mehdi Carcouche, maintenant, qui est aussi chorégraphe. Mmh.
Qu'est-ce que t'avais de plus que les autres n'avaient pas?
Mais Doc Martins.
C'est ça?
Non, mais tu vois, je pense qu'il y avait un truc. On en revient à ce truc-là. Il y avait un contraste trop chelou par rapport aux gens avec qui je traînais, là d'où je venais. Et en fait. Ce que j'étais réellement, parce que voilà, je suis un Babtou, tu vois, qui a grandi avec un père qui a des goûts de Babtou, et du coup, il y avait un contraste qui était assez chelou, quoi, tu vois.
Okay.
Genre, quand on me voyait arriver, on se disait, ah, ça doit être un danseur contemporain, et en fait, j'arrivais, je briquais, quoi, tu vois.
Et, ouais, ce côté très masculin et en même temps très féminin.
Ouais. Ouais.
Ok, là, Christina de Queen, c'est la folie, non? Parce que vous partez en tournée pendant quelques temps.
Ouais,
pendant
ça a été 3 ans.
3 ans de tournée à fond.
Ça a été fou, en vrai. Ça a été vraiment des beaux souvenirs de vie.
Donc, c'est concert, festival, ouais. Télé.
Franchement, à 20 ans, se lever tous les jours et d'être dans des festivals de musique.
Dans le monde entier, surtout.
Dans le monde entier, tu vois.
C'est une des rares artistes françaises qui
a autant tourné.
Qui a autant
d'ailleurs,
tourné.
D'ailleurs, j'en parlais là avec un des musiciens de Chris. Et je lui disais, mais il y a des tournées là en ce moment encore qui où il y a des gens qui vivent ça et tout. Il me disait, non, il n'y a pas.
Ouais, c'est unique en son genre.
Ça a été spécial, ouais, vraiment, je crois, cette tournée-là.
Qu'est-ce que tu retiens de ces 3 années?
Je retiens que ça m'a beaucoup nourri de rencontrer, déjà de voyager dans le monde et de rencontrer les plus gros artistes au monde. Parce qu'en 3 ans, j'ai rencontré les artistes les plus fat.
Parce que pourquoi? Parce qu'en fait, en backstage et dans les festivals,
c'est ça,
tout le monde est là, en fait. Ouais.
Moi, j'ai fait des câlins à Tyler the Creator. J'ai ridé avec les gars d'Aysep. Tu vois, à 20 piges, tu vois. Tu vois, j'ai fumé des joints avec Skepta. Tu vois, j'ai ridé. J'en ai fait des scènes avec Elton John. Enfin, dans tous les... Bref, j'ai rencontré énormément d'artistes et j'ai senti que ça avait ouvert ma vision et le champ des possibles. Tu vois, j'étais en mode, ok, il y a tout à faire.
Ouais, parce qu'en fait, t'as un horizon qui est genre la MJC du coin et une fois que tu passes dans ce monde-là, tu dis en fait, the sky is the limit, quoi.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est un peu cliché, mais en même temps, c'est la réalité. La réalité, tu regardes... Là, quand je retourne dans le 9-4, tu vois, je vois que, tu vois, c'est pas pareil, quoi. Les gens sont pas extravertis, tu sens que...
Comment est-ce qu'on peut reproduire ça? Il y a cette idée quand même dans ce podcast de dire, ok, c'est comment je peux reproduire ce qu'a fait Léo. Il y a une accumulation de chance et de rencontres, ça c'est une certitude, mais il y a quand même aussi une façon d'être, un positivisme sans doute, une curiosité, une détermination, enfin tu te bouges, quoi.
Ouais, alors je travaille 3 fois plus que les autres, je pense.
T'as un don naturel, mais tu travailles 3 fois plus que les
autres.
Ouais,
les gens ils pensent que tu vois, ça m'est tombé dessus, mais franchement je sais même pas comment j'ai fait pour travailler autant. Genre, il y a un moment, après, j'ai un peu fait un burn-out, ça s'est stoppé, tu vois. J'ai liquidé mon énergie, on va dire.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'il y a un moment, je travaillais de 8h à 5h du mat.
Mais à quelle période?
Bah, c'était quand j'ai commencé à monter la marge bleue.
D'accord.
Si tu veux, moi, dans ma carrière, il y a un peu ce truc de... Il y a eu un peu des étapes où ça a été des coups. Tu vois, genre... t'es en tournée avec Christine, le projet s'arrête, et là, tout d'un coup, t'es chez toi en banlieue, tu sais pas quoi faire. Donc, comment rebondir de ça? Et là, c'est injecter de l'énergie positive dans sa vie à fond pour rebondir. Après, il s'est passé tout ce truc-là. Je me suis séparé d'Angèle. Et après, c'était comment rebondir, tu vois, aussi encore dans ce truc-là. Reprendre le... Ramener aussi le truc un peu vers soi et machin, tu vois. Et c'était des étapes où ça me... Je pense déjà, ça me demandait une force vitale, tu vois. Et une pensée hyper positive, tu vois. Parce que quand tu vis des coups durs dans ta vie, t'as deux choix qui s'offrent à toi. Et... y a, parce qu'il y a une souffrance, donc la tristesse, donc qui peut amener de la haine. Donc il y a se renfermer dans ça. Et tu vois, je parle beaucoup du soleil et tout, mais c'est vachement une image que je me mets, tu vois. Mais voilà, de choisir le soleil, de choisir d'être entouré de gens positifs et d'aller vers le positif, tu vois. Après, le positif ne veut pas dire... tu vois, c'est un peu cliché de dire ça, mais ça veut pas dire qu'il laisse pas place à des choses deep et à des choses... mais c'est juste au moins d'être dans les énergies, quoi. De rencontrer des gens, de... Tu vois?
Carrément. J'aime bien reprendre un petit peu en milestone, mais ta carrière, c'est une question que j'aime bien poser, mais c'est... Grosso modo, donc t'as Christine. Ensuite, Christine s'arrête, tu travailles avec qui derrière?
Bah, en vrai, je faisais des battles, mais surtout je suis tombé amoureux et puis j'ai vécu une histoire d'amour.
Ouais.
Et j'ai beaucoup donné dans ce projet-là et dans cet amour-là. Je me suis même un peu oublié. Et puis après, je me suis reconnecté.
Ouais. Et la Marche Bleue avec ensuite un premier spectacle, un deuxième spectacle. Ça. Et après ce livre et puis une multitude de projets en fait. Tu disais tout à l'heure que tu avais travaillé sur plus de 300 projets en 4 ans.
J'ai fait tellement
de shoots. Quel type de projet t'as fait en fait? T'as beaucoup fait de shoots en tant que mannequin, c'est ça?
De pubs, de spectacles, de... On m'appelle pour tellement de choses différentes, tu vois.
Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est quoi tes skills? T'es danseur, chorégraphe?
Bah, aujourd'hui, si tu veux, par exemple, si on prend là tout de suite, là, je bosse sur un projet où on m'a donné la DA de A à Z. Au lieu de faire un défilé, c'est pour une marque, mais j'ai pas le droit de la citer. Au lieu de faire un défilé, ils m'ont donné carte blanche. Donc, si tu veux, j'ai dû penser la scénographie. Tu vois, en fait, tu t'occupes du titre, du flyer, des danseurs. Tu crées un spectacle, les musiques, tout en fait.
Avec des vêtements. Enfin, l'objectif, c'est quand même de montrer des vêtements à un moment donné pour la Fashion Week, là, j'imagine, non, qui arrive.
Ouais, c'est pour mars.
D'accord.
Ouais. Et du coup, c'est incroyable parce que je bosse avec les scénographes que j'aime. C'est Bédac qui produit, mais si tu veux, j'ai choisi la scénographie. Les musiciens, je bosse avec Agar Agar, tu vois, c'était des potes à moi qui font de la musique. Et en fait, on me laisse des cartes blanches pour que je puisse interagir avec tout ce qui est sous mon prisme et des gens avec qui... non, pas sous mon prisme, pas du tout, parce que ça fait grand gourou, alors que pas du tout. Plutôt, c'est des gens avec qui ça rebondit et avec qui il y a un écho dans le travail, tu vois.
Quand tu travailles... Quoi que ce soit, en fait, explique-moi, au-delà d'Inspi, il y a un processus créatif, c'est où est-ce que tu pars de quoi? Enfin, t'as un brief, d'ailleurs, le brief, là, par exemple, sur, je sais pas si tu peux en parler plus précisément, mais t'as un brief, tu dois montrer une collection au travers d'une chorégraphie.
Tu dois faire des moodboards, tu dois... là, pour la scénographie, on a dû payer un gars qui retranscrit la scène en 3D. Tu fais des réunions avec les équipes de la marque.
On te donne quand même une image, un mood, etc.
Là, on m'a laissé carte blanche.
Ok.
On m'a laissé carte blanche. On m'a dit, fais ton truc. Après, bien sûr, si ça leur plaît pas, mais ils aiment bien ce que je suis en train de faire.
Et qu'est-ce qu'on vient chercher? C'est quoi alors ton ADN et les codes de les walk?
Bah, je pense que j'ai... je viens de l'underground, donc j'ai une gestuelle atypique, dans le sens où je pense que j'ai des inspi qui viennent de milieux très différents dans lesquels j'ai navigué. J'ai un gros rapport à la mode dans mon travail. Donc là, je sais qu'il y a beaucoup de trucs de assez postural dans mes chorégraphies.
Tu parles de genre de la photo de mode, de la culture même mode, de l'image de mode.
Je parle même dans la gestuelle. Tu vois, je sais que des nanas comme Grace Jones, tu vois, qui étaient des mannequins, elles avaient ce truc. Tu vois, elles avaient ce truc de posture, cette féminité. Tu vois, il y avait un truc très sexy dans ce qu'est de la manière dont elles bougeaient. Je sais que moi, ça m'inspire vachement, ces gestuelles-là, tu vois. Et à la fois, je peux te faire une choré où tout d'un coup, t'as des breakers qui vont au sol, puis tout d'un coup, t'as des gens de la mode qui font un peu des poses sculpturales. Et puis après, j'ai aussi mes inspis dans la peinture, dans le dessin, tout ça, qui fait que ça m'inspire des sculptures, souvent de corps. En fait, je pense que c'est un mélange de plein de choses qui me nourrissent, qui font juste partie de ma vie, en fait. Moi, tu vois, je me lève des fois, je dessine. Après, enfin, tu vois, je fais des choses très différentes et je navigue avec des gens très différents. Et c'est juste que je retranscris tout ça.
C'est qui tes artistes préférés, multiformes? Parce que finalement, t'es inspiré par plein de choses. Mais si tu devais me citer quelques artistes, quelques références.
Alors, j'ai pas beaucoup de refs en termes de. Y a des gens qui m'ont inspiré. Je sais que Brancusi, Noguchi, Valentine Schlegel, c'est des gens qui m'ont inspiré dans leur forme, dans leur texture, dans ça, dans le minimalisme aussi beaucoup. Ça me parlait beaucoup. Après, dans la danse, il y a des gens très underground qui m'ont inspiré, genre Machine, Casper, c'est des b-boys. C'est vraiment très underground, très niche, tu vois, mais ils m'ont beaucoup apporté et nourri. Et après, t'as des musiciens comme Flavien Berger, James Blake, Nicolas Jarre. Il y a cette époque un peu de la musique en mode Nicolas Jarre, cette période un peu électronique m'a beaucoup marqué et beaucoup nourri parce que t'avais des sonorités hyper planantes et aussi, je sais pas, je ressentais beaucoup d'émotions en écoutant cette période. Tu vois, l'album où il y a Être, Colombe et tout ça de Nicolas Jarre, c'est une pochette blanche, noire et blanche, tu vois.
Je vois très bien.
Genre, cet album-là, il est fou. Je l'ai écouté il y a pas longtemps et en fait, c'est tellement contemporain, tu vois. C'est tellement expérimental au final. Et moi, c'est ça que j'aime. C'est aussi les gens qui expérimentent. Après, je crois qu'il y a aussi un truc de fibre, tu vois, parce qu'aujourd'hui, on peut pas dire. Souvent, j'entends des gens à table, tu vois, en terrasse, c'est très parisien ça, mais dire, oh, ça c'est de la merde, oh, c'est pas ouf ce qu'il fait. Mais tu sais, on peut pas dire ça en fait, c'est tellement une question de fibre. Tu vois, les gens ont. C'est thérapeutique ce que je dis parce que je suis le premier à bitcher, mais j'essaye de plus en plus de m'appliquer ça, de comprendre que moi j'ai ces influences-là et mon chemin, et que c'est ça qui me plaît, mais c'est pas une. C'est pas une évidence, c'est pas une. Tu
c'est
vois
une vérité, ouais.
Genre, par exemple, Rick Owens, ça me parle pas du tout. Et en fait, il a son délire et il le pousse. Et je trouve ça génial, tu vois, qu'il le pousse. Mais c'est pas ma fibre. Et on va dire que ces dernières années, j'ai moins travaillé ma danse, mais j'ai beaucoup travaillé ma sensibilité. Je suis allé dans. J'ai plongé dans mes tourments. Je me suis vraiment plongé dans certaines émotions, j'ai puisé dedans, dans ma tristesse, dans la mélancolie. Et de ça, il y a plein de choses qui en sont sorties.
Quand tu dis ça, c'est quoi? C'est les périodes difficiles, la séparation de tes parents, tes ruptures, c'est quoi le côté noir? Parce que on sent bien que t'es quelqu'un qui est fleur de peau, qui est.
Ouais, je suis très solaire, mais très dark aussi.
Et ouais, t'as les deux côtés, quoi.
Mais dans la. Je suis très dark pour moi-même. Si tu veux, j'ai toujours été un peu destructeur.
Autodestructeur.
Ouais. C'est comme la plupart des TDAH, hein, tu vois, ils finissent. La plupart finissent drogués ou fous, tu vois. Mais y en a aussi qui ont fait de super choses, mais c'est assez dur à gérer émotionnellement d'être dans notre corps. Et je sais que moi, des fois, c'est juste très intense. Je comprends pas. Je comprends pas. Tout d'un coup, j'ai l'impression que le monde va s'écrouler, que tu vois, il y a juste quelque chose qui se passe en moi. Et tout d'un coup, ce qui vient apaiser ces plaies, ça va être une musique, ça va être un tableau. Et c'est pour ça que j'ai l'impression de ressentir les choses de manière très forte, mais des fois même un peu trop, tu vois. Et je sais que bah j'ai puisé dans ça et après j'ai expérimenté des choses. Tu vois, mon manager, il aimerait pas que je dise ça, mais en même temps, j'ai envie de reconnaître la vérité dans mon process créatif. J'ai expérimenté, j'ai pas mal bu, tu vois. Pas tous les jours, mais j'ai expérimenté, par exemple, certaines émotions à travers l'ivresse. L'ivresse m'a vachement inspiré un moment et j'ai vu ses limites aussi. J'ai vu que c'était pas quelque chose qui pouvait durer dans le temps. Mais des fois, ça pouvait me faire passer dans certaines émotions qui fait que je me libérais et que j'avais accès à quelque chose à l'intérieur de moi que j'arrivais à projeter. Et je sais que, bah, par exemple, c'est assez bizarre, mais je me mettais dans un atelier et je dansais en étant sobre et je créais beaucoup de matière. Toute la matière que j'ai créée, je l'ai créée sobre. Parce que tu peux pas danser en buvant. Mais toutes les idées globales de chaque tableau, je les ai créées dans l'ivresse.
Intéressant. Et t'as testé d'autres choses, d'autres drogues, des microdosages,
non,
etc.
Non, parce que j'ai pas testé. Si j'ai déjà essayé, mais je sais que moi, par exemple, j'ai jamais pris de coke, parce que sinon je perds ma famille, je perds tous les gens avec qui j'ai grandi, et puis j'ai grandi avec des gens qui la vendaient, donc ça me fait super bizarre de. Je prendrais pas ça, tu vois, c'est impossible, mais j'ai déjà essayé le LSD, j'ai déjà essayé les champis. Mais pour le coup, je trouve ça intéressant, mais ça m'a pas permis de créer.
Pas dans le processus créatif, ça a pas été.
Non,
je trouve que
t'es juste foncedé, en fait. T'es juste là en train de caresser un arbre et il va pas se passer grand chose, tu vois. Alors que, les TDAH, si tu veux, c'est pour ça que la plupart, bah d'ailleurs, des TDAH que je connais, qui sont très talentueux, Roméo Elvis, tu vois, genre Octave, Marsal, je peux citer plein de potes à moi qui sont des bons foncedés, tu vois, qui mangent beaucoup de sandwichs. Et c'est pour ça, c'est qu'en fait, tout d'un coup, on a besoin de quelque chose qui fait que nos cerveaux, il est là. Et quand on est là, on est hyper intense et on a vraiment une énergie folle à déployer dans une chose. Et du coup, ça fait que généralement, on le fait bien, cette chose-là. Et le problème, c'est que bah, moi, des fois, je m'éparpille. Tu vois, je suis trop partout, trop planant. Mes danseurs, des fois, ils me regardent, ils me disent « Mais on est en répète, Léo, qu'est-ce que tu fais là ?» Et je suis juste en train de me toucher les cheveux comme ça et je pars. Et je pars, tu vois. Même là, aujourd'hui, j'étais dans une... J'étais en réunion avec toute l'équipe sur le prochain projet que je bosse, qui sont des gens chamés. Et il y a des moments, ils me parlaient et ils me disaient « Léo, 1, 2, 1, 2 ». Et mon cerveau, il switch, tu vois. Alors que ce qui est super bizarre, c'est que je vais boire un coup, mais je te dis pas, genre, j'ai besoin de me brûler la gueule. Je vais juste boire un verre ou je vais juste fumer deux lattes sur un joint. Tout d'un coup,
Tu reconnectes.
Je suis reconnecté et je suis méga là et j'essaye... perpétuellement, ça fait des années, tu vois, j'ai arrêté le joint, je bois beaucoup moins, machin. Je fais grave gaffe à ça et j'ai pas de tendance,
addictive.
Addictive. Ça, j'ai cette chance-là, mes potes, ils ont jamais compris, tu vois. Ils sont en mode, des fois, tu fumes un paquet par jour pendant deux semaines.
Et après,
des fois, je fume pas pendant une semaine, tu vois, j'ai pas ce truc-là. Mais du coup, c'est vrai que j'ai essayé d'avoir cet état sans ça et c'est impossible. Je n'arrive pas à être, tu vois, connecté à une seule chose. Tu vois, c'est très dur pour moi. Par exemple, quand je suis dans un resto avec quelqu'un, il faut que je sois, faut que je me mette dos aux gens et que j'ai lui et le mur, tu vois. S'il y a des éléments, je capte tout. Je capte que la personne là-bas, elle n'arrive pas à payer. Que lui, il est un peu genre chelou. Je capte tout ce qui se passe dans la salle. Tu vois, c'est comme dans les films.
Hyper sensible et hyper alerte, ouais.
Mais vraiment, tu vois, souvent dans les films, ils font des trucs comme ça où tout d'un coup, t'as des espèces de mecs dans les films d'action où tout d'un coup, tu vois tout ralenti.
Ouais.
Et moi, il se passe ça en continu. Et souvent, ça m'inspire des scènes de danse aussi. Tu vois, souvent, je regarde ce truc-là et je note et je suis en mode, ah, c'est intéressant ce truc, machin, tu vois. Mais après, c'est quand je dis je note, c'est je fais une vieille note.
Ouais, une note sur ton
sur l'iPhone
que tu risques de perdre.
Ouais, ouais. Donc je relis le truc et je m'en souviens pas souvent, ouais. Tu vois. Mais je sais que c'est un cerveau qui a ses complexités, mais qui a aussi ses forces. Et j'ai essayé de voir ses forces, mais voilà, c'est très dur pour moi, en
ouais,
fait,
pour
pas
le
pour mon entourage. Si tu veux, pour mon entourage. Je suis quelqu'un de généralement assez solaire. J'ai mes périodes, bien sûr, comme tout le monde. Je vais pas te dire c'est la funk tous les jours, mais
non, mais ça, t'as l'air plutôt posé et,
ouais,
et normal.
Je suis quelqu'un d'assez simple à vivre et surtout j'ai une énergie très spéciale. Je suis quelqu'un du matin et en fait tous les matins je suis heureux et c'est plutôt le soir que je suis dark. Le matin, tous les matins je suis
t'es content.
Ouais, je sais pas. J'ai l'impression que c'est une nouvelle journée, que tout est possible, que tout peut se passer.
Parce que toi, maintenant, aujourd'hui, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas.
Je sais ce qui me touche. Je sais ce que je trouve beau. Alors qu'avant, tu vois, normal, tu fais tout avec un bout de ficelle. Et du coup, en fait, t'es en mode ouais, ça, c'est ok. Alors que aujourd'hui, maintenant que je peux travailler avec les gens. En fait, déjà, j'ai cette chance, tu vois. J'ai cette chance d'aujourd'hui, tu vois, il y a un album d'un mec, By Alexander, j'écoutais ça en boucle, un album magnifique. En fait, le mec, il me contacte sur Insta, c'est un New Yorkais, et il me dit, viens à New York, on bosse ensemble. J'ai cette chance-là de,
t'as plus besoin de faire des compromis, en fait.
Ouais, même dans ma personnalité, il y a un truc qui s'est forgé qui fait que Tu vois, moi, j'ai pas de tabou avec ça, mais je suis passé à côté de beaucoup d'argent dans ma vie, beaucoup, parce que je suis en France, donc qui dit la France, dit la télé, dit machin, et tu vois, je suis passé à côté de beaucoup d'argent, mais parce que juste aujourd'hui, je suis dans les années, je te dis pas que je serai comme ça à 45 ans, même si je me le souhaite, mais aujourd'hui, je veux faire aucune concession. Et franchement, mon manager aussi fait un travail de fou dans ça parce qu'en fait, il veut chercher une vérité et ça l'intéresse. Tu vois, je sais qu'il me pousse toujours dans ça, dans un monde où on me dit « Ah bah là, oublie, ne parle pas de ça, il faut pas qu'on parle de ça. » Enfin, il y a tellement de tabous aujourd'hui. Tu vois, par exemple, genre, j'ai souvent le débat Kanye West. Et moi, j'ai un avis qui est très simple. C'est, je cautionne pas ce qu'il a dit, ses derniers propos, mais je cautionne la liberté d'expression d'un artiste. Et en fait, limite, j'aurais plus besoin qu'il y ait des mecs qui soient prêts à perdre 5 milliards d'euros, quitte à dire une dinguerie parce qu'ils le pensent sur le moment, même si je cautionne pas. Mais en fait, je cautionne juste le fait qu'on puisse dire ce qu'on pense. Et quitte à se rendre compte qu'on est des cons, tu vois, derrière, et dire, bah, pardon, j'ai été con. Mais en fait, tu vois, je trouve qu'on est loin de l'humain en ce moment, tu vois. Et du coup, j'ai beaucoup de chance parce que je fais de la danse et que moi, dans ma danse, en ce moment, je parle de ça. Et les gens le perçoivent pas, tu vois. Et c'est ça qui est génial parce que c'est pas explicite. Tu vois, c'est un langage corporel. Donc, mais tu sais pas ce que je dis. S'il faut, je suis en train de te dire que, tu vois, je parle du féminisme, je parle de plein de sujets tabous s'il faut, mais j'en parle pas de manière explicite, donc je me fais pas démonter médiatiquement. Tu vois?
Intéressant. Aujourd'hui, tu dis que tu veux plus faire de concessions, donc t'as ce luxe. Il y a plusieurs choses. Hein. T'as déjà ce luxe. Et ce luxe, comment tu l'as acquis d'après toi? Est-ce que le fait d'avoir en fait, c'est quoi le truc qui a mis tout le monde d'accord
dans ce que j'ai fait? Je pense que c'est Premier Ride. Ça a été ma première pièce parce que c'est, si tu veux, j'ai mis tellement de ma vie, de mon passé. Et cette pièce, tu vois, quand je la regarde, je me dis, mais elle est pas fofolle en fait, c'est pas fou, tu vois. Mais les gens qui l'ont vu, ils ont ressenti un truc qui leur a fait énormément de bien. Parce que justement, je pense que j'ai vraiment craché quelque chose à ce moment-là. J'ai vraiment craché quelque chose de mon passé et des dernières années où j'ai vécu trop de choses qui étaient justement tabous, tu vois, liées à des gros artistes. Enfin, c'est allé très vite, tu vois. J'ai, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'étais animateur, après j'étais en tournée. Enfin, il s'est passé tellement de trucs. Et Premier Ride, c'était un peu une pièce qui parlait de tout ça, où j'étais juste un môme avec des yeux complètement émerveillés sur le monde et qui décrivait tout ça. J'étais tellement heureux de tout ce que je vivais. Enfin, tu vois, je pense que. Et je le vois souvent, je parle à des artistes qui voilà, leur. Enfin, c'est pas pour critiquer, hein, mais je côtoie des artistes où, voilà, leurs parents leur ont payé un studio, ils sont nés, leurs parents c'est des grands journalistes ou des grands designers, enfin, tu vois. Et je capte qu'ils ont une vision super intéressante, parce que très pointue, dans la culture, ils connaissent tout sur tout, et du coup, ils ont un truc très tranché, très puriste et tout, et ils ont une belle vision du truc. Mais par contre, je sens qu'il manque, du bonheur dans ce qu'ils font. Et je le capte en plus, parce qu'aujourd'hui, j'essaye de battre contre ça pour pas tomber dans ce truc-là, tu vois, de devenir un puriste aigri de la mode. je veux garder cette âme-là et je veux juste aimer. Et en fait, moi, ce que j'aime quand même dans mon métier, c'est de rester aussi dans quelque chose d'humain. Tu vois, je pense que même si je travaillais, si tout d'un coup je me mettais à faire que des shootings de mode, bah, je pense que ça passerait par un truc humain avec les gens dans lequel je bosse, dans le process, tu vois. Et je sais que j'ai bossé avec des gros artistes dernièrement, qui sont genre les plus gros artistes dans le monde, et je sais que c'est un mood board. C'est genre, ok les gars, on fait ça, et ça parle pas, tu vois. C'est genre, mettez-vous en place, ah ouais, super, on fait la photo. Et voilà, tu vois. Et le rendu est magnifique. C'est ça qui est assez paradoxal dans la mode. C'est que avec, tu vois, aucune émotion, tu peux faire des choses, des fois, très belles. Et je sais que moi, j'ai besoin quand même de vibrer. J'ai besoin que des gens avec qui je collabore, tu vois, là, j'ai pris Agar, qui est en musique, c'est des gens qui me parlent de ouf, tu vois, dans ce qu'ils font. J'ai pris Jeanne... Melka pour la Céno, c'est une peintre que j'aime trop, tu vois. J'ai besoin qu'il y ait un rapport humain, tu vois, et on déblaye beaucoup de choses qui fait que ça nous amène vers ce qu'on fait. Mais.
Donc, le premier ride, ça a mis tout le monde d'accord. Et aujourd'hui que t'as cette chance, ce pouvoir, t'as acquis un truc où tu peux faire ce que tu veux, t'as envie de. T'as envie de donner quoi? T'as envie de montrer quoi? T'as envie de laisser quoi? Et surtout,
je sais pas.
Parce que j'ai le sentiment quand même que tu touches plein de monde. Alors, enfin, t'es avant tout chorégraphe, danseur, mais t'es photographe, dessinateur, metteur en scène. T'es finalement un artiste multidimensionnel et protéiforme, ça qu'on dit.
Ouais.
T'as envie de laisser quoi comme truc?
Non, si tu veux, c'est le truc qui me fait le plus peur, c'est que je l'ai jamais conscientisé. Et aujourd'hui, j'ai tellement de, bah, tu vois, quand tu fais un show pour un gros gars, t'es obligé un peu de capter ce que tu fais. Tu vois, t'es obligé de prendre un recul sur le truc, se dire, est-ce que c'est pas un peu pété ça, tu vois, et à la fois, je trouve que c'est un travail intéressant, mais il y a quelque chose qui me fait vachement peur là-dedans de conscientiser mon art. Et de, tu vois, conscientiser ce que je vais laisser, ça, c'est vraiment un truc, je ne sais absolument pas. Tu vois, je sais pas du tout, je sais pas, en fait.
Mais tu construis une œuvre, quand même, globale.
Ouais, mais je crois que je sais pas ce que je fais. C'est que vraiment, Flavien Berger, je suis allé le voir parce que j'avais passé des moments durs dans ma vie et je lui ai dit, salut mec, on se connaît pas. Bah, tes musiques, en fait, elles m'ont aidé à traverser ces étapes de vie. Et merci, en fait, tu m'as maintenu en vie ces dernières années. Donc, genre, ta musique, elle me fait vibrer. Je veux qu'on travaille ensemble. Et on travaille ensemble. Mais, tu vois, je sais pas ce qu'on laisse. Je sais pas ce qui en sort vraiment. C'est, j'ai besoin d'expérimenter. Tu vois, je crois que j'ai besoin encore de me dire. En fait, j'essaie d'aller à l'encontre de ça parce que je me laissais la possibilité de faire quelque chose que j'ai pas trop conscientisé. mais que j'ai ressenti.
Ouais. Mais il y a quand même un... Enfin, tu vois, je me dis... je sais que dans tes précédentes interviews, tu parles de Pina Bausch, ce genre de personnalité. J'ai l'impression que tu as quand même envie de... Tu as quand même cette ambition de... Alors, peut-être pas d'être... peut-être que tu l'as pas conscientisé d'être...
J'aimerais bien que...
Qu'on te compare à Pina Bausch à la fin de ta carrière.
Quand je serai mort.
Quand tu seras mort. Mais à un moment donné, ces gens-là, ils ont eu conscience de ça, de se dire « je construis une œuvre ». Je suis très ambitieux, je fais pas de compromis, j'écris une page de l'histoire de la danse et de la chorégraphie.
Ouais, mais je conscientise pas ça. Par exemple, là, je suis sur une nouvelle pièce qui va être très personnelle, qui est vraiment l'histoire de ma vie, de tous les reproches qu'on m'a fait dans ma vie. Et je sais que je suis beaucoup plus dans le truc viscéral que de me dire « Ah, ça va être une œuvre ». En fait, je me laisse la possibilité de faire peut-être quelque chose qui va pas du tout marcher, mais dont qui aura fait partie quand même de ce que je suis. Tu vois, je pense que si je conscientise trop le truc, je peux être à côté aussi.
Ouais.
Je pense que...
Faut être viscéral.
En fait, si tu veux, j'ai l'impression que j'ai compris les codes. C'est pour ça que des fois, on prend en movement directeur. Je trouve qu'il n'y a pas plus simple sur Terre parce que tu as compris certains codes. Tu sais ce que les gens, ils aiment. Tu sais ce que les gens, ils veulent. OK, c'est beau. Tu maîtrises la forme. Mais le fond, c'est pas quelque chose qui se travaille dans un bureau. C'est pas un truc qui se travaille dans un mood board avec 10 personnes dans une réunion. Le fond, c'est ce que tu traverses. C'est ce que tu as à l'intérieur de toi. Et pour ça, ça demande de vivre aussi des choses. Et je parle souvent de ça, mais parce que à la limite, j'essaie de trouver un entre-deux, un équilibre entre le fond et la forme. Je parle souvent de ça, tu vois, le yin et le yang, l'équilibre entre le fond et la forme. C'est pour moi, dans la forme, je vais y mettre le côté mode, le côté graphique, mon rapport à la photo, tout ce que je peux retranscrire ou visuellement, les gens ils trouvent que c'est beau à l'œil. Et après, t'as le fond. Et le fond, bah, c'est que... Par exemple, il y a un tableau, J'ai rêvé, où souvent je suis hyper ému. Et du coup, souvent les gens me parlent de ce tableau-là et je leur dis, putain, mais c'est fou. Comme quoi, j'ai l'impression que les choses m'appartiennent pas, si tu veux. Ce tableau-là, je parle de la séparation de mes parents. Et en gros, il dit toujours, j'ai rêvé que tu m'aimais. Et j'imagine qu'ils sont encore ensemble. Et qui s'aiment encore et qu'on est encore en famille tous ensemble, tu vois. Et du coup, j'ai projeté une émotion en créant ce tableau-là. Et les gens, ils
le ressentent.
Ils le ressentent, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant. Ce que j'ai pu vraiment expérimenter en art, c'est que quand il y a quelque chose de putain de vrai que tu ressens et qui est vrai, les gens le ressentent. Après, qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, c'est les goûts et les couleurs. Mais au moins, ça part de quelque chose de...
C'est-à-dire que si tu mets tes tripes, les gens le ressentront.
En gros.
Il y a des chances. Enfin, en tout cas, ouais. Il faut pas mentir. Parce que sinon,
ouais,
ça se ressent.
Ouais, c'est ça. C'est que quand t'as accès à une vérité, il se passe quelque chose, quoi.
Qu'est-ce qu'on te reproche, toi ?
Là, ce qu'on m'a reproché dernièrement, ces dernières années, je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait... On m'a reproché d'avoir trop d'ego, voilà, la classique hein, des artistes. J'écoutais pas assez les autres. J'étais très dans ma bulle et c'était peut-être un peu trop de moi ces dernières années. Et en fait, ce que je comprends qui est paradoxal et aujourd'hui je fais un travail machin, tu vois, avec un psy, tout ce que tu veux, mais aussi en rapport avec les gens que j'aime et tout ça. Parce que j'ai pas envie de devenir un connard aussi, tu vois, qui calcule pas que en fait son ami va mal, qu'il peut pas l'écouter, machin. Et voilà, et ces dernières années, j'ai été très focus sur moi. Et à la fois, ces gens qui me reprochent ça, ce qui est paradoxal, c'est que j'ai pu porter tout ce monde-là parce que j'étais comme ça aussi. Et en fait, j'ai pu faire tout ça parce que j'étais obsessionnel, en fait. Tu vois, il y a un côté obsessionnel. Dans l'artiste, c'est genre on a beau te parler, ton pote il va mal, ta maman elle est pas au top, mais toi en fait tu veux que ce détail là tu veux que ce danseur il soit habillé comme ça. Et ça te prend, mais genre c'est obsessionnel, tu vois, et c'est ce qui fait qu'en fait j'ai pu faire tout ça. Et à la fois bah voilà, aujourd'hui là je me suis mangé un petit revers de médaille des gens qui me reprochent voilà pas mal de trucs, mais et c'est intéressant, tu vois. C'est moi, c'est un sujet que je trouve dont on devrait grave parler, parce que j'ai côtoyé beaucoup d'artistes qui étaient des connards. Mais quand je te dis des connards, c'est des gens qui pour eux il n'y avait pas d'autres gens qui pouvaient exister,
quoi. Tout ce qui est à côté, qui, parce qu'en fait ils sont tellement obsédés par leur sujet,
qui font beaucoup souffrir les autres. Et
on peut être à la fois extrêmement bon et créatif et comment, en tout cas réussir dans son art et être au top, tout en étant sympa, doux,
tout en étant un bon humain. Moi je pense que c'est possible.
C'est possible.
Mais je pense pour le coup que c'est pas acquis, tu vois. Je pense que c'est beaucoup de remise en question, c'est beaucoup d'entourage aussi, d'aller vers les gens qui te disent ouh là tu dérailles un peu. C'est beaucoup de remise en question, et c'est des phases. J'aurais pas pu comprendre ça si j'avais pas eu ma phase égo. Là, la phase dans laquelle je suis en ce moment, bah tu vois, c'est une phase importante. Et j'ai l'impression que dans la vie, tu vois, on traverse des phases comme ça. Il faut les vivre à fond. Tu vois, moi, des fois, je vois des potes à moi, ils sont dans leur égo, en mode moi. Et je suis en mode, bah ouais, mais c'est... Pour moi, c'est une phase aussi hyper importante de la vie, parce que c'est peut-être dans ces 4 années-là où il va construire ce qui va le nourrir pendant jusqu'au reste de sa vie, tu vois. Et pour moi, je même si je lui dirais voilà, fais attention, il y a des gens autour et machin, je lui dirais ces 4 vérités aussi, je lui dirais aussi
fonce, écris ton histoire.
Ouais, voilà, tu vois, parce que. Parce que je vois aussi qu'il y a beaucoup de jalousie et beaucoup de gens qui veulent t'éteindre, tu vois.
Puis il y a une sorte de money time, tu vois. Enfin, il y a un moment donné, il y a un momentum. Enfin, toi, t'étais à ce moment-là où tu sors de Christine, tu t'es avec Angèle, tu lances ta compagnie, etc. Tout ça fait qu'il y a un momentum, et c'est maintenant qu'il faut tabasser, c'est maintenant qu'il faut monter le spectacle, c'est maintenant qu'il faut réussir, quoi.
Bien sûr.
Et ce drive, cette énergie folle, enfin ce drive, ça vient vraiment de quoi? C'est tous les difficultés que t'as eues quand t'étais gamin?
Non, c'est une énergie naturelle, tu vois. T'as des gens qui sont réservés, t'as des gens extravertis. Il y a aussi un truc de nature, j'imagine.
Ouais, mais il y a quand même une frustration à un moment donné, non? Une volonté.
Bien sûr. Moi,
t'as les crocs parce que t'as galéré.
Oui, j'avais la dalle aussi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la réalité qui fait qu'aujourd'hui je peux ne pas faire de concessions dans mon art, c'est parce que aussi j'ai une situation financière. Tu vois, il y a 6 ans, 7 ans, c'était...
Tu faisais plus de compromis.
Ouais, tu vois.
Tu vas refaire de la mode ou pas? Ou ça sera que de la direction artistique? T'as envie de faire des vêtements?
Ouais.
Ah ouais,
grave.
Quand même. D'accord.
Ouais, grave. Il y a une designeuse new-yorkaise là qui voulait que je fasse des sapes. Peut-être je montrerai un autre studio, une autre marque, tu vois, plus dans mon ADN, et possible.
Qui t'inspire aujourd'hui dans ce monde que tu côtoies?
Bah, je sais pas trop, tu vois. Non, mais c'est vrai.
C'est pas grave.
Ça va faire encore un truc d'égocentrique, mais...
T'es le mec, ouais.
Mais ouais, tu vois.
Il a le melon.
Personne, il n'y a que WAM. Non, mais en fait, je suis beaucoup inspiré de ce que je vois. Tu vois, je suis très inspiré des gens, de la vie, tu vois. Genre, je sais que des fois, je prends le RER et je vais être 10 fois plus inspiré qu'en allant voir une grosse expo et un défilé, tu vois. Il y a des petites choses de la vie comme ça qui m'inspirent. Et après, je travaille en esthétique. Il y a beaucoup... il y a une multitude d'artistes que je suis. Et ça va pas être... souvent, je suis comme ça. Il y a un truc que j'aime, un truc que j'aime pas. Et souvent, par exemple, il y a un artiste, bah, il va faire une seule chose que j'aime. Tu vois, genre, il va faire 40 tableaux et du coup, les gens vont dire, ah, tu t'inspires de... Bah non, il y a eu un seul tableau qu'il a fait, qui m'a parlé. Et en fait, je pense que je me nourris de des choses que j'aime, qui m'inspirent, que je vois, que je trouve beau, tu vois. Après, j'ai quand même des inspirations musicales, tu vois. Il y a quand même... Je pense que musicalement, je suis quand même inspiré de plein de choses.
Tu fais de la musique, toi ?
Non, j'aimerais bien. J'aimerais bien, mais ça prend beaucoup de temps. Je pense que si je commence à faire ça, j'aurais plus de temps pour le reste. C'est très chronophage.
Une question que j'abordais en début, c'est comment est-ce qu'on mène plusieurs projets de front ? En fait, tu t'oublies, tu fais que travailler, c'est ça ?
Ouais, ma vie perso, c'est vrai que ça a pas été. J'ai un monsieur, je l'ai un peu oublié ces dernières années, quoi.
Ton corps, c'est ton outil.
Il te rattrape. Par exemple, tu vois, j'étais là, je pensais que j'avais le contrôle sur tout et je me suis tapé un ulcère il y a un an. Et tu vois, j'ai senti physiquement, je suis monté dans un train tout seul après cet ulcère. Et j'ai senti qu'il fallait, tu vois, que je change de bord. Tu vois, que le bateau était.
T'avais fait le tour d'un truc.
Ouais, que mon côté TDAH, j'étais un peu dans une. Tu vois, je faisais un peu trop, et que, en fait, ça a ses limites, tu vois. Ça a ses limites. On a des métiers où on nous pousse, tu vois, dans la mode, tu vois. Je sais que. J'ai vécu un truc assez bizarre avec Virgil Abloh, parce que j'avais travaillé avec lui sur son dernier défilé. Et justement, à cette époque-là, j'étais à fond walk, à fond la compagnie. Vraiment, je menais tout de front. On avait organisé le festival. Je faisais plein de choses très différentes qui demandaient énormément d'énergie. Et je le regardais et je me disais, comment tu fais ? Tu vois, comment tu fais ? Virgil Abloh, il prenait des avions et machin. Et c'est mon ressenti à moi, tu vois. Mais moi, pour moi, ça lui a coûté la vie. Et en fait, justement, je me disais, putain, mais... Moi, je sens que je suis en train de dérailler là, que c'est inhumain ce que je suis en train de vivre. Parce que je sens que t'as beau être quelqu'un de très inspiré, il y a un moment, il faut que tu te renourrisses. Tu vois, même si tu connais tes inspis, il faut que tu puisses revivre des choses, il faut que tu puisses remplir, quoi. Tu vois, le pot, il est vide au bout d'un moment. Et tu vois, je voyais ce gars qu'on tirait à fond. Et ça a été un peu un exemple pour moi, dans le sens où je le regardais, je me disais. Ah non, en fait, il faut que je pousse plus le truc. Et il s'est passé ce qui s'est passé. C'est ma vision, hein. C'est peut-être pas la réalité, mais c'est comme ça que je l'ai perçu.
Beaucoup de gens perçoivent comme ça, c'est sûr.
Je me suis dit, voilà, on n'est pas des robots. On est des humains, on a des sentiments, on a de la tristesse, on a du bonheur, on a des choses. Et pour un bon fonctionnement, il faut qu'on ait tout ça.
Mais dans ce moment-là où t'as le money time, t'as envie de dire oui à tout, en fait.
T'as un peu ce truc, vas-y, on fait une collab avec Lacoste, trop bien. Léon, on va pas faire le Bataclan, finalement, on va faire un Olympia. Ok, trop bien.
Quand t'as le mojo, en fait, il faut
foncer, tu vois. Tu prends tout. Et heureusement que ça m'est arrivé jeune et que j'avais j'ai eu l'énergie de faire ça. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus posé. Tu vois, je sens que je pourrais limite refuser un job parce que je préfère me faire un week-end à la campagne avec des potes. Tu vois ce que je veux dire ?
Okay.
J'ai moins la dalle, mais tu vois, comme je pense que toutes ces phases-là, elles sont importantes. Je pense aussi que si j'étais là encore tous les jours à faire des vidéos sur mon Insta de moi qui danse dans mon salon. Je pense que ça aurait pu saouler les gens, tu vois ce que je veux dire aussi.
T'as passé un cap.
Et ouais, je pense que c'est des. Je pense que toutes ces phases dans la vie d'un artiste, elles sont importantes, tu vois. Des fois, je le vis mal. Tu vois, j'ai un peu cette angoisse. Il y a le côté anxieux qui revient. Je me dis, ah, tu montres pas assez, tu fais pas assez de trucs. Et puis derrière, t'as des machines. Moi, j'ai mes producteurs qui m'appellent. Tu fais pas assez de story. Tu vois ce que je veux dire. Non, mais t'as la réalité du truc aussi.
Bien sûr.
Et t'as les gens qui disent ouais, on te voit pas assez, machin. Et moi, je vois que paradoxalement, j'ai jamais été aussi bien payé et j'ai des cartes blanches, tu vois. Et je fais des trucs qui me plaisent de ouf dans mon travail. Et donc voilà, en fait, tu vois, je pense que c'est bien fait aussi. Mais des fois, j'avais un peu ce truc de putain, est-ce que je passe pas à côté du truc ? Est-ce que je dois justement pas revenir à ce truc-là
FOMO, quoi, un peu.
Ouais, et sauf qu'au final, je pense que c'est important de pas saouler les gens aussi.
Comment tu choisis tes projets? Ça revient un peu à la question oui, non, tu vois. Et j'ai envie de parler aussi de business. C'est que comment tout ça tient debout? Comment est-ce qu'on gagne de l'argent? Mais pour revenir sur le oui, non, tu vois, tu dis oui à quoi aujourd'hui? Et non, enfin, tu dis non à quoi d'ailleurs?
Je dis non à
tout ce qui n'est pas cohérent avec
toi. J'ai pas trop envie de le dire parce que c'est
non,
c'est
mais
un peu,
je sais pas,
ça va faire arrogant, mais tu vois, par exemple. Hier soir, il y avait Sia qui était invitée au dîner quartier. Enfin, c'est elle qui chantait. Je sais que j'avais refusé de faire un projet pour Sia, tu vois. Et en vrai, j'étais un peu con, tu vois. Aujourd'hui, je me dis, ah putain, en termes de business, c'était fat, tu vois. Puis c'était une track qui avait super bien marché et tout. Et en fait, juste, j'ai pas kiffé la musique. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai du mal à créer si je ressens pas.
T'es trop entier. Enfin, t'es trop honnête, quoi.
Ouais, c'est ça. Et en fait, je peux le faire. Tu vois, tu connais les codes. Enfin, il y a un moment, quand t'as progressé dans ton art, tu peux faire quelque chose. Tu vois, tu maîtrises la forme. Donc, tu vas faire un beau truc. Tout le monde va être content. Mais je crois que ça m'intéresse. C'est pas de faire ça, tu vois. Et après, j'ai pas envie d'être extrême. Là, aujourd'hui, je sais que je vais essayer de trouver un entre-deux, de me temporiser un peu. Sinon, je suis extrême. Sinon, je vais faire un projet par an. Et moi, derrière mon manager, bah, faut qu'il nourrisse sa fille. Faut que moi, je puisse manger. Tu vois. Donc, oui, il faut un peu que je temporise le truc. Mais
t'as pas un filtre qui te dit, OK, ce projet, si ça gagne beaucoup d'argent, je le fais. Ou si ça gagne pas beaucoup d'argent, mais si ça apporte quelque chose à mon histoire.
En fait, par exemple, pour te dire la vérité, ces derniers temps, j'ai fait des grosses campagnes monde. Là, il y en a encore une qui sort dans un mois. Et franchement, ça paye trop bien. Et ce qui fait qu'à côté,
tu fais des trucs qui gagnent pas.
L'équilibre
mais qui...
qu'on s'est trouvé, si vraiment tu veux qu'on rentre dans le truc de business,
ouais.
L'équilibre qu'on a trouvé, c'est que j'ai une agence d'image. Je fais de la moula avec mon image.
C'est quoi ton physique?
Ouais, c'est moi physiquement.
C'est
mannequin,
quoi.
Je suis modèle, mais du coup ils me prennent en tant que talent, tu vois. Ils me payent pas comme un mannequin. Ils me payent en tant que ils shootent un artiste, machin. Ce qui fait que je suis très bien payé.
Et t'as fait quoi comme campagne par exemple récemment qui sont sorties?
Il y avait Vuitton pour les montres, ce qui fait que j'ai pu acheter cet appart. Il y a Gant. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une campagne pour l'OEV. J'ai fait 3 campagnes Ralph Lauren,
extraordinaire.
Une campagne Lacoste. À chaque fois, c'était des campagnes monde, donc affichage, tu vois, donc c'est
ce beaucoup d'argent.
Tu gagnes bien. Et du coup, en fait, on s'est dit ça avec mon manager. On s'est dit, nous, on veut faire de l'art, on veut faire des vidéos. En ce moment, j'ai commencé à réaliser une série entre les maisons, le design, la mode. Enfin, j'avais fait une vidéo qui s'appelait Maison d'en face, et j'en ai fait une autre qui s'appelle J'ai rêvé à la Villa Magnan. Et j'aimerais continuer cette série-là. Et voilà, ça, c'est des choses qui rapportent rien. Au contraire, c'est limite, j'injecte.
Ça nourrit la bête. Enfin, ça nourrit ton image et qui tu es, quoi.
C'est ce que j'ai envie de faire. Et à côté de ça, voilà, on graille grâce à la mode. Tu vois, c'est...
Ouais, c'est un peu une love and hate relationship, la mode, quoi.
Ouais, mais j'ai pas inventé l'eau chaude. Au final, je crois que tous les artistes vivent un peu comme ça, en vrai.
Mais c'est
la plupart des artistes avec lesquels je travaille, collabore, c'est comme ça.
Ils vivent grâce à cette industrie qui draine beaucoup de sous.
C'est aussi super. Moi, je trouve ça passionnant parce qu'en fait, on travaille avec des marques qui ont beaucoup d'argent et qui peuvent débloquer du budget pour faire des choses que jamais j'aurais pu faire. Tu vois, là, la carte blanche que je suis en train de faire,
c'est fou.
Dans mes lèvres, dans mes lèvres, n'importe quoi, dans mes rêves. Ce que j'aurais voulu faire, c'était ça. Jamais j'aurais eu le budget. Enfin, tu vois, le budget, il est monumental. Tu vois, le prix de la scéno, enfin, tu vois, ils sont en train de construire une énorme scénographie. Enfin, le budget est énorme, tu vois. J'aurais pu rien faire. Donc, je trouve que c'est passionnant et ça arrange les deux parce que eux, ils prennent, tu vois, au bout d'un moment, quand t'es une grosse marque, même aussi talentueux, tu peux être au bout d'un moment, enfin tu vois, quand ça fait 20 ans que t'es DA, il y a un moment t'as plus d'idées, quoi.
Bien sûr.
C'est cool de prendre, et là tu prends des gens où ils ont à fond, ils ont plein d'idées, machin, ça déborde, ils ont plein de trucs, en plus t'as quand même t'as quand même un point de vue de oui, non, non, ça me va pas, machin. Donc tu peux quand même, ça peut quand même refléter ta vision. Et à la fois, voilà, tu profites de. Et nous, on en profite parce qu'on peut arriver à faire visuellement ce qu'on a envie de faire.
Et tes spectacles, c'est un truc que tu arrives à rentrer dans tes coups ou c'est pareil, c'est un peu non. comme les vidéos à la Villa Magnan. C'est pour le plaisir, quoi. Enfin, c'est pour nourrir ton art.
Je ne paierais même pas mon loyer avec la danse. Vraiment. Tu vois, c'est si on peut dire la vérité, tu vois, je remplis des théâtres du Châtelet, 4 théâtres du Châtelet avec mon nom. Derrière ça, je peux même pas payer mon loyer, tu vois.
C'est un délire. Pourquoi, comment ça se fait?
C'est un crédit à la banque, tu vois. C'est,
ça coûte une blinde de louer.
Déjà, construire la scénographie que j'ai fait. La scéno, moi, ça, j'hallucine. Je vois tout. J'ai 20 mecs qui construisent, qui la montent, tu vois. Ces 20 mecs, faut les payer. Le mec qui a ramené ça en camion, il faut louer le camion, il faut payer ce mec-là, les droits des musiques, les retouches dans costume. Il y a tellement de frais, on s'en rend pas compte. Mais ce qui fait que, j'ai un crédit à la banque qui fait qu'il faudrait que je fasse une quarantaine de dates pour devenir.
Pour que ce soit rentable.
pour rembourser mon crédit, quoi. Mais comme la plupart des artistes, tu vois, il y a un mec là qui a fait un truc sur ça sur YouTube où justement j'en connais qui ont vécu ça. Hein, ça fait des Bercy complets, des 20 000 personnes et t'as perdu 500 000 euros. Mais derrière ça, en image, tu fais 20 festivals et à partir du 20e festival, après, tu commences à gagner à te remplir les poches, quoi. Mais en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est qu'on investit sur notre image et après, il y a toute l'industrie de la. Même j'ai l'impression qu'il y a un nouveau phénomène, c'est que t'as des artistes même qui se créent juste pour un lien avec pour travailler dans la mode. Tu vois, c'est des gens, des mannequins, mais en fait, il fallait qu'ils trouvent le truc en plus. Ils avaient pas envie d'être instagrammeurs, donc tout d'un coup, ils deviennent chanteurs, dessinateurs. Je suis un peu dur quand je dis ça, mais ils sont pas réellement talentueux. Mais il y a tellement d'oseille sur le truc qu'au final, ils font quand même. Tu sais, c'est des produits images, c'est des artistes images. Et il y en a pas mal, je trouve. C'est un nouveau phénomène. Ça, c'est nouveau. À l'époque, la com, c'était. Elle a une trop belle voix, ça fonctionne. Les gens, ils veulent continuer d'aller voir ses concerts. Et du coup, ils prennent leur place. Et là, aujourd'hui, il y a une nouvelle industrie qui fait que tu peux tellement pousser les gens en images que les gens pensent que c'est une star et après ils regardent et ils ressentent rien, tu vois. Mais le mec il continue de faire des spectacles et des dates. Il y a un nouveau phénomène avec ça, tu vois.
Intéressant. Comment t'as construit ton image, toi? Ça s'est fait naturellement ou c'est très réfléchi ou c'est encore une fois
c'est
très,
c'est ça vient absolument de trip. Pas réfléchi,
Et aussi, une seconde question, c'est comment tu la maintiens au top du game? Parce que comment tu restes sexy aux yeux de Chanel, Louis Vuitton et des gros conglomérats du luxe? Comment on reste sexy auprès d'eux?
Je sais pas. En fait, mon manager, il me dit souvent ça. Il me dit, c'est bizarre parce qu'on voit plein de danseurs et tout, mais quand tu danses, il y a un truc graphique ou je sais pas, il y a un truc qui. Par exemple, genre, je sais que souvent j'aime danser en chaussures. Parce que dans ma posture et dans ma danse, ça fait pas la même chose que quand je suis en jogging et en basket. Tu vois, ma danse, dans mes postures, il y a un truc qui change dans ça. Et franchement, je sais pas.
Ok.
Franchement,
pourquoi ça fout la chiale quand on regarde la danse, quand on regarde tes vidéos
Ça te fait ça?
Ouais, moi, enfin, ça m'émeut vachement et j'ai du mal à comprendre parce que c'est un langage qui est universel, c'est ça, la danse.
Parce que je parle de toute la misère du monde. Je parle de, tu vois, j'arrive pas à être engagé politiquement et je le ferai pas sur les réseaux parce que, tu vois, c'est pas mon métier, je suis pas politicien. Je sens qu'il y a trop de choses qui m'échappent. Et les répercussions que t'as quand t'as genre plus de 200 000 personnes qui te suivent, il y a des vraies répercussions, tu vois. Et je maîtrise pas assez mon sujet, mais par contre, je ressens des choses. Je ressens des choses par rapport à la guerre, je ressens des choses par rapport aux gens qui m'ont blessé, par rapport aux gens qui m'ont planté des couteaux dans le dos ces dernières années. Je ressens plein de choses et je pense que c'est ma seule manière de crier ça, c'est de danser. Et franchement... moi, je me vois des fois, Des fois, ça me rend triste de me voir danser en vidéo parce que, tu vois, je vois un enfant qui souffre, en fait. Je vois un gars qui souffre, tu vois. Et je suis face à ça, qui me regarde, tu vois. Et après, c'est ce qui fait que après, je sors de ça et je vais bien et je suis solaire. Et ça me fait du bien parce que j'exorcise le mal. Mais si tu veux, je pense qu'il y a... J'extériorise un truc deep, en fait. Genre, ces derniers temps, je sais que j'arrive beaucoup à... Je suis beaucoup dans des rebonds, comme des... comme si je chutais tout le temps, tu vois. Il y a un peu ce truc où je danse debout par terre, debout par terre, debout par terre. Et c'est un peu ça. J'ai l'impression que je m'écroule et que je me relève et que je m'écroule et que je me relève. Et j'ai l'impression que j'exprime ça, tu vois. Parce que je le vis vraiment, tu vois. Genre, il y a des jours, j'arrive même pas à me lever tellement je suis mal dans mon corps. Et il y a des jours, je suis en mode... Mais je suis le plus beau, je suis frais, qu'est-ce qu'il y a? Je suis le meilleur. Tu vois, c'est un peu ça, tu vois, c'est un peu je vais même des fois je me déteste, c'est comme ça.
Ça ressemble à quoi tes journées? Est-ce que tu as des routines? Comment tu t'entretiens la machine? Comment tu
Bah écoute, je commence à devoir être un peu obligé d'entretenir la machine. Si tu veux, franchement, avant, j'avais pas besoin, j'avais trop d'énergie. Et... En vrai, quand t'es jeune, tu vois, des fois, tu peux ne pas t'échauffer, machin. Là, j'avoue que je me rapproche de la trentaine, je capte que ma machine, elle est... Tu vois, si je bois du vin blanc, j'arrive, j'ai des tendinites. Tu vois, t'es obligé de faire gaffe. Tu vois, si j'ai une grosse perf, bah ouais, je fais attention, alors qu'avant... Je disais, ouais, il y a une soirée ce soir. Alors que le lendemain, je suis en répète, je faisais les deux, sans souci, ça passait. Aujourd'hui, ça ne passe plus.
Tu penses à si ton corps te dit stop? Enfin, tu penses, demain, tu te fais renverser dans la rue, ou tu te blesses méchamment et tu ne peux pas remonter sur le ring. Comment
je pense que je ferais de la réal ou du dessin. Ou... Par exemple, je pense que je ferais de la réal. Parce qu'en fait, ce que tu ressens, tu peux le projeter de plein de manières différentes.
Oui, aujourd'hui c'est ton médium, mais tu pourras trouver un autre moyen.
Je trouverai un autre médium. Parce que c'est plus fort que moi. C'est ce qui me fait vibrer. J'ai l'impression d'avoir gardé ce truc d'enfant avec ma meilleure amie Wendy. On avait un tableau Velleda dans ma chambre et tous les jours on appelait ça les projets. On devait faire des projets, on était obsessionnel avec ça. C'était vas-y, on va vendre des magazines dans toute la cité et après on va acheter plein de bouffe et on ramène tout le monde et on, tu vois, j'avais des on faisait tout le temps des projets comme ça et j'ai l'impression d'être resté dans ce truc là, tu vois, où genre j'ai besoin
de projets,
d'être stimulé, de réunir des gens, de vibrer, d'avoir des discussions intéressantes. Je me ressens encore dans ce besoin de projet, tu vois.
Si t'es à refaire tout ça, tu changerais quelque chose?
En termes de business?
Les deux. Tout. Business, de
je
de
me serais
décision.
Beaucoup plus protégé. Je me serais protégé plus. J'aurais mis peut-être plus de distance avec mes danseurs sur ma première pièce. Si j'aurais dû monter une marque, je me serais pas associé à quelqu'un.
Quand tu dis mettre de la distance avec tes danseurs, ça veut dire quoi?
Ça veut dire c'était difficile en fait de cette posture d'être avec son danseur jusqu'à 2h du mat à écouter ses tourments et à être là comme un frère. Et le lendemain de devoir être chorégraphe et à la fois d'être danseur et d'être au fond de la classe, quoi. C'est un peu comme si t'étais... Des fois, j'ai l'impression de vivre ça. J'ai l'impression d'être avec mon prof, d'être... Donc, je suis le professeur, mais je suis aussi le mec qui est avec une gomme et qui jette des gommes, tu vois, dès que le prof, il a le dos tourné. Tu vois, parce que je reste un... Tu vois, il y a un côté enfantin en moi, tu vois. Je reste un peu... Mais je puise dans ça aussi dans mon travail, parce qu'il y a des choses intéressantes aussi des fois qui en sortent. Mais tu vois, c'est ça qui est un peu difficile. Alors que là, voilà, j'ai arrêté d'être tous les week-ends avec mes danseurs et du coup, ça se passe mieux professionnellement.
On est obligé de passer par là, pour obligé de couper, si tu veux bien l'idée, manager, c'est, mener
ça,
tes troupes.
Ça dépend, mais je pense que c'est compliqué.
Ouais.
Honnêtement, d'être en tournée tout le temps avec des danseurs et que ça soit tes meilleurs potes, c'est possible, je pense, sur un projet où t'es avec une ou deux personnes. Mmh. Et encore, tous les chorégraphes que je connais, ils sont foncés dans le mur au bout d'un moment. Enfin, ça marche 2-3 ans et puis au bout d'un moment, il y a l'ego. Tu sais, il y a tellement d'ego dans nos milieux, dans ce qu'on fait, tu vois. Et les danseurs, c'est assez compliqué parce que il y a une frustration aussi, des fois, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que tu deviens un des plus gros danseurs, tu restes un saltimbanque, tu deviens un des plus gros chanteurs, tu fais les victoires de la musique, tu fais tout ce que tu veux, tu gagnes des millions parce que t'as la SACEM. Nous, il n'y a même pas de droit qui existe, tu vois ce que je veux dire.
Mais oui, c'est ça aussi.
Il n'y a même pas de droit, c'est même pas protégé.
Quand
moi, demain,
quand
je vois des gens qui reprennent mes vidéos, qui reprennent certaines postures que je fais. Il n'y a aucun droit, tu vois. Et après, c'est bien aussi parce que ça reste, faut que ça reste libre, la danse, tu vois. Donc, c'est pas pour rien. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, on reste.
Ça reste des métiers fragiles et
ça reste un métier fragile, hein. Franchement, tu vois, c'est on n'est pas riche, tu vois, les danseurs. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, mais.
Mais t'as fait ton argent avec d'autres choses, avec les marques de mode, quoi, avec ton image.
Bah, j'ai capté que moi, juste, j'avais un autre prisme, c'est que même un shoot où ça va être moi, même une vidéo où ça va être moi, au final, je faisais la DA. C'est moi qui choisis toujours la musique. C'est moi qui au final fait même mon stylisme sur une campagne Ralph Lauren, tu vois, au final c'est moi qui me retrouvais à dire à mes danseurs
moi, ça
tu mets
ça.
Mmh. Et en fait voilà, c'est plus que j'ai un aspect DA en fait. Tu vois, je pense que c'est vraiment ça. Mais dès le début, tu vois, je visualise tout comme un film et je suis un peu obsessionnel. Si lui il est pas comme ça, que ça retranscrit pas ça derrière,
Et finalement, qu'est-ce qui a vraiment fait la diff, d'après toi ?
Bah, je te dis, je pense que j'ai l'impression que j'ai démocratisé un truc, je pense, à un moment, tu vois. Après, je suis pas le seul, hein, mais je pense que j'ai fait partie de... tu vois, je parlais de ça hier au manager de Sofiane Pamart, tu vois, où... au final, c'est intéressant. Le mec, c'est un rebeu. Il est pianiste classique. Et tu vois, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, du coup, ça vient ouvrir un truc où je pense que 90% de son public, c'est pas des gens qui écoutent de la musique classique. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que, je sais pas, hein, mais peut-être que je dis n'importe quoi, mais j'ai l'impression que moi, j'ai fait un peu un truc comme ça aussi. Moi, je sais que, enfin,
t'as démocratisé
c'est assez
le truc,
concret.
Hein,
tous les théâtres que je fais, tous les directeurs viennent en personne à chaque fois me voir pour me dire, c'est hallucinant. On n'a jamais vu
des gens comme ça,
ce genre des public, gens aussi différents. Et moi, ce que je vis qui est assez assez fou, c'est que je touche tout le monde. Enfin, quand je dis je touche tout le monde, c'est pour dire je touche tous les âges. C'est bizarre de dire ça, mais je touche tout le monde en fait. Non, non, non. Non, ce que je veux dire, c'est que des fois, je suis surpris quoi. Il y a un papy de 75 ans. Je suis venu voir votre pièce au théâtre du Châtelet. C'était
est-ce
très
qu'il y a
beau.
Un truc de démocratisation,
et à la fois, t'as une jeune qui fait des TikTok et qui est en mode ah, je suis fan de ta danse, ça m'a trop inspiré. Et quand tu au théâtre du Châtelet, on était assez surpris du public quoi.
Ouais.
T'as vraiment les gens de la mode. Il y a des acteurs aussi des fois qui viennent, ils prennent leur place. T'as des peintres, t'as beaucoup d'artistes. C'est quand même beaucoup d'artistes. Mais si on prend juste le public, t'as tous les âges. Et ça, je sais que la danse, c'est ça, y a pas ça. Moi, non. Je sais que par exemple dans l'underground, t'as des choses incroyables. T'as des gros chorégraphes qui font des choses exceptionnelles, mais c'est très niche et ça parle pas du tout à tout le monde. Tu vois, c'est du gros hip hop. Tu vois, ça peut pas parler à tout le monde. Moi, je suis désolé, mais tu vois, il y a beaucoup de gros chorégraphes contemporains. Ça me fait rien du tout. Je me fais chier, genre, quand je vais voir leurs pièces, tu vois.
Tu vas voir beaucoup?
Ouais, je vais voir beaucoup. Et franchement, tu vois, par exemple, Pina, à l'opéra, j'ai trouvé ça hyper beau. Et ça m'a grave touché. J'ai trouvé qu'il y avait une justesse. Qu'il y avait une justesse dans l'écriture. Mais Mais voilà, je pense que je sais pas en fait, ça c'est pas à moi de répondre à ça en fait. La question que tu m'as posée, elle est un peu traite parce que c'est vraiment, tu peux que être un espèce de connard arrogant.
Égocentrique. Moi, moi, moi.
Moi, moi, moi.
Et oui, un sujet aussi que je voulais juste aborder avec toi, après on arrête là. Non, cette problématique, tu l'as effleurée un petit peu tout à l'heure, où en fait on se fait. On ne peut pas protéger ces mouvements, je ne sais plus comment t'appelles ça, ces phrasés, non, tes figures, quoi. Il y a aussi ce sujet de l'appropriation culturelle qui est difficile à gérer, à vérifier. Ouais. Comment tu fais en sorte, toi, de. Parce que j'imagine que tu regardes plein de choses, tu t'inspires de plein de choses, et potentiellement on peut te reprocher ça, de dire en fait, inconsciemment t'as pris la, je sais pas, la figure d'un chorégraphe, ouais, ou d'une danse africaine, et c'est de l'appropriation culturelle. Comment on gère ça en fait quand on est artiste chorégraphe?
Moi je me suis pas assez protégé. Tu vois, quand je te dis il faut que j'apprenne à me protéger, c'est que je suis pas quelqu'un qui travaille avec un mood board. Tu vois, par exemple, il m'est arrivé cette histoire là, il y a pas longtemps, je pense que c'est pour ça que tu fais allusion à ça, où Miel et Laura, ils avaient fait une image qui m'avait super marqué et qui était trop belle, où justement c'est sa petite femme, elle le serrait dans les bras et lui il avait fait un solo. Et en fait, moi, tout le monde a cru que j'avais copié son truc. Alors qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je travaillais sur des duos, sur des duos, on parlait de l'amour, du couple, tout ça. Et en fait, à la base, c'était deux nanas qui faisaient ce truc-là. Et j'ai une des nanas qui s'est barrée, j'ai pris un nouveau danseur, et le danseur qui a repris le duo, c'était un danseur électro. Donc, qui avait là une matière similaire à ce gars-là. Et pour moi, si tu veux, j'étais à des années-lumière de eux, en fait. Et en fait, eux, le montage qu'ils ont fait et comment ils ont posé le truc, je suis passé pour un mec qui faisait du plagiat alors que c'était à des années-lumière de ça. Tu vois, c'est pour moi, c'est possible déjà. C'est possible d'arriver à faire la même chose dans la danse. Tu vois, enfin, ce que je veux dire, c'est que, voilà, moi, j'ai, genre, il y a une pose que je fais qui est assez connue, c'est quand je superpose les mains, là, tu vois, une superposition de mains. Mais en fait, je peux pas dire que j'ai inventé l'eau chaude. Tu vois, c'est possible qu'un jour, j'ai des gens qui délirent en soirée, qui vont, ah, venez, on met nos mains les unes sur les autres, ils vont faire la même chose que moi. Là, tu vois, ce danseur électro, ce qui a été dur dans cette histoire pour lui, c'est que même ça a été un débat qui était assez intéressant. Ça voulait dire que aucun danseur électro ne pouvait faire un câlin. Tu vois, c'est quand même un module tu vois, qui arrive assez souvent. Donc, tu vois, tu fais une audition, tu prends un danseur électro, tu dis voilà, et je veux qu'il y ait un câlin entre deux personnes. Allez, vous partez en impro. Le chorégraphe, il fait ça. Il y a un moment, il va y avoir cette image
Bien
qui va
sûr.
sortir, tu vois. Et du coup, c'est un sujet qui est assez compliqué, tu vois. C'est que moi, je sais que j'ai jamais été le mec qui criait au copiage. Parce que, d'ailleurs, Roman Frécinet, il parle de ça. Ça m'a fait du bien. Il a fait une interview où il parle de ça sur Click. Et c'est intéressant. Et en fait, ouais, ça fout la mort quand tu vois quelqu'un qui reprend tes inspi, qui sort sur les mêmes vagues que toi. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que c'est censé être un moteur pour m'amener ailleurs, pour faire des nouvelles
Pour
choses.
progresser et innover.
Ouais. Et après, bien sûr, tu vois, il y a un clip d'un gros artiste là, il y a pas longtemps. Ils ont repris la vidéo on a fait avec Inès. C'est du copier-coller. C'est-à-dire, tu sens que, mais c'est même dans les positions de comment ils ont mis les deux corps, le top shot, le tout. Et tu vois, c'est du copier-coller de A à Z. Tu vois, maintenant, s'inspirer, pour moi, c'est OK. Et après, tout ça, c'est très personnel, hein. C'est pour ça, hein, tu vois, au final, moi, c'est juste que tu vois, j'étais un peu une girouette. Il y a des danseurs qui m'appelaient, qui m'embrouillaient. Ouais, faut que tu postes un truc, faut que tu t'excuses, machin. Moi, je savais pas, tu vois, pour moi, je l'ai eu au téléphone direct, le gars, j'étais juste en mode, bah, je suis désolé, tu vois, je pense que c'est des choses tu vois, le truc est arrivé, et je pense que ça arrivera à plein d'autres gens et on peut
Puis ça
pas.
se enfin ça arrivera à nous, dès que tu as de
Tu
la
vois,
visibilité à un moment donné.
tu vois, je, quand tu fais beaucoup de choses, il y a des moments, c'est possible que tu fasses quelque chose. Tu vois, maintenant, j'ai capté que ça faisait aussi partie de mon travail de me questionner. Ce truc-là était assez intéressant parce que justement, comme je te disais avant, je fonce. Et là, ça fait partie de ce recul à prendre que je prenais pas avant. Mais là, de se dire, en fait, frérot, ce truc-là, ok, il est beau, mais avoue, ça a été fait 100 fois, non? Ou alors, non, en fait, franchement, je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a fait, mais il y a 20 ans, et c'était pas comme ça, le danseur était pas comme ça. Donc là, c'est ok, tu vois. Mais je pense que c'est un questionnement qui était intéressant. C'est, je me suis mangé une bonne tarte, mais à la fois, je trouve que c'est intéressant aussi, tu vois.
Toi, tu connais tout sur tout?
Pas du tout.
Non, mais
moi je connais rien. Hein.
Non mais toute l'histoire de la danse à un moment donné,
moi je passe mon temps à faire semblant dans les dîners où ils parlent de grands chorégraphes autrichiens et je suis en mode non, je vois pas. Non, je crois que mes rêves c'est c'est les gens qui m'ont inspiré dans ma vie, c'est des petits gars paumés à Champigny qui tu vois.
Et si tu pouvais parler à...
Tu vois, il y a un mec qui m'a beaucoup inspiré dans ma vie et qui s'appelle... on l'appelle tous Balico, c'est une légende de Champigny. Il était assez incroyable, ce gars, parce que tu vois, c'était un mec écorché vif, il se battait tout le temps. Il était alcoolique très, très jeune. Enfin, il était très tourmenté. Et à la fois, c'était genre... Par rapport à là où on a grandi, c'était tellement un monde parallèle qu'il soit aussi littéraire. C'est un mec qui dévorait des livres et des livres. Il avait une culture, mais c'est le mec que je connais qui a le plus de culture. C'est-à-dire que, tu vois, et le mec, à côté de ça, il était skin anti-raciste, il tabassait les racistes. Et ce qui a failli lui coûter la vie d'ailleurs, et ce qui était paradoxal avec ça, c'est que le mec, il était tellement cultivé. Mais quand je te dis pointilleux, c'est que je l'ai amené à des salons littéraires. Ma tata, elle a organisé des salons littéraires, mais tout le monde le regardait en mode, ah oui, il connaît tout, le gars, tu vois. Et il écoutait Gainsbourg, c'est le genre de mec, tu vois. Et il avait ses petites platines, on avait 13-14 ans. Et il était très minutieux, on écoutait des vinyles de Gainsbourg chez lui, machin. Il était... Enfin, il était dans des mondes super parallèles et c'était un mec écorché vif. Et ce mec-là m'a beaucoup inspiré dans mon travail. Et en fait, c'est tous ces gens-là, ces électrons libres, ces gens un peu du père, ces gens un peu perdus, qui ont pas de code, qui juste sont ce qu'ils sont, tu vois. Et ça, c'est ça qui m'a inspiré, je crois, dans ma life.
T'es serein aujourd'hui?
Non, je suis pas serein parce que je capte que j'ai une responsabilité par rapport à mon art. En fait, j'ai déjà une responsabilité par rapport aux gens avec qui je travaille, qui doivent manger derrière. Donc, te dire que je suis serein, ce serait te mentir. Maintenant...
Mais ça, c'est un truc... C'est trop... Enfin, je trouve que c'est difficile. Moi, je le vis à mon niveau. Quand tu as besoin d'être créatif, et toi, c'est encore plus vrai, tu dois sortir tes tripes et tout quand tu danses, etc. Et en même temps, tu dois gérer ta trésor. C'est comment tu arrives à faire la part des choses et à rester extrêmement créatif et près de tes ressentis, tout en étant hyper conscient du quotidien et de la nécessité de ramener des sous, quoi.
Ouais, c'est un peu schizophrénique. En vrai...
c'est un ping-pong permanent.
Je pense que quand tu fais ce genre de truc, t'es obligé d'être suivi, tu vois, par un psy, d'être bien entouré avec des bons amis, parce que c'est vrai qu'il y a un truc qui est pas... qui est pas naturel, en fait, tu vois.
Bien sûr.
Naturellement, tu te poses pas autant de questions, t'es pas obligé de conscientiser autant de choses. Tu vois, c'est... Moi, je sais que je suis obligé de travailler beaucoup sur moi, en fait.
Très bien. Bon, je t'ai pris 2 heures, je suis désolé. Dernière question, c'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast pour passer le relais dans les industries créatives et culturelles au sens large? Ça peut être...
Ah, il y a un mec que je trouve qui pourrait être intéressant. C'est Armand de Agar Agar, le mec qui fait les prods. Parce que moi, je trouve que c'est... Agar Agar, c'est quand même un groupe... c'est français, c'est un groupe français, c'est deux français. Il faut savoir qu'ils font des tournées bien plus fat, ça fait plus de 200 dates à l'étranger. Enfin, ils font le projet est bien plus fat que 100% des artistes qu'on nous fait croire que c'est des stars en France, tu vois. Et c'est donc c'est un petit génie de la musique, tu vois, et électroniquement, enfin qu'on aime ou qu'on aime pas, il avait vraiment une DA dans son délire, et je trouve que c'est intéressant. Moi, j'adore ces électrons libres, en fait. J'aime trop ces gars qui ont une vision, un fil conducteur, comme par exemple Laylo, tu vois, avec qui j'ai bossé. Jay, il a toujours eu sa vision, il me disait toujours, moi, mon délire, c'est les trucs digital, machin. Et tu vois, au fur et à mesure des années, ils construisent ce truc-là. Et ce que je trouve intéressant, c'est de quelle manière ils le font, avec qui, tu vois. Lui, il est toujours avec son gars, bah, ils sont qu'à deux, ils sont toujours en train de penser à comment ils vont refaire le monde ensemble. Tu vois, et moi, je trouve que c'est intéressant, ces gens-là, tu vois. Après, dans des goûts, des styles très différents, tu vois. Bah, Laylo, ça serait intéressant aussi.
Trop bien. Cool.
Ouais, Laylo et Armand Agar-Agar. Tu vois, je te prends quelqu'un de connu et quelqu'un un peu plus discret, mais.
Trop bien. Bon, ça t'a plu, cette discussion?
Ouais, hyper cool.
Merci beaucoup. Graf. J'ai
merci
adoré,
à
moi aussi. À bientôt. Salut.
À bientôt. Salut.
Je m'appelle Adrien Garcia et vous venez d'écouter The Bold Way. The Bold Way, c'est aussi une newsletter dans laquelle je vous partage un email par semaine rempli de contenu exclusif, d'idées innovantes et de ressources précieuses pour vous aider à surmonter vos défis et tracer votre propre chemin. Inscrivez-vous dans les notes de cet épisode ou sur theboldway.fr. Last but not least, la meilleure manière de m'aider est de partager ce podcast autour de vous. Si cet épisode vous a aidé ou touché, partagez-le à vos proches et à vos amis. Merci pour votre confiance et à bientôt pour un nouvel épisode.